Donc, cette présentation est tirée d'une enquête ethnographique menée en observation participante que, dans un aéroport d'Île-de-France entre 2010 et 2012 que j'ai effectué dans le cadre de ma thèse. J'ai été embauché dans une société, ou je me suis fait embaucher plutôt, dans une société sous-traitante d'assistance aéroportuaire que je vais appeler pour plus de communauté Super Ramp. Une première fois au cours de 7 mois dans le cadre d'un contrat de professionnalisation au métier, enfin au poste d'assistant piste, hein, et une deuxième fois au printemps été 2012 en tant qu'agent de chargement intérimaire. Donc concrètement, l'assistance en piste, ça consiste à effectuer le chargement et le déchargement, enfin plutôt le déchargement puis le chargement des soutes des avions lors des escales, ainsi que des opérations de guidage des aéronefs, à savoir le guidage à l'arrivée, qu'on appelle le placement, et le guidage au départ, que l'on nomme le repoussage, donc à partir des aires de stationnement des avions. Donc l'enquête s'est concentrée sur le groupe des assistants aéroportuaires qui sont catégorisés comme des ouvriers, selon la nomenclature des PCS, d'où le terme « ouvrier de piste » que j'ai employé dans ma thèse, bien que, signe d'invisibilisation, ce terme ne figure pas dans les noms des catégories, comme semble être le cas dans de nombreux métiers qu'on a évoqués aujourd'hui. Donc, très rapidement, je vais vous décrire ces différents postes de travail. Le poste le moins qualifié, ce sont les agents de chargement, qui sont essentiellement des manutentionnaires, qui sont considérés comme des agents non qualifiés des services d'exploitation des transports, code PCS 6, donc comme ouvrier 76D. Vous avez un peu plus qualifié les assistants pistes, qui accomplissent généralement le placement, souvent, mais pas tout le temps, le départ au casque et des opérations de sécurisation de l'avion. Et participent également à la manutention, qui sont considérés comme des ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, pour ceux qui ont une formation spécifique, je reviendrai là-dessus, et leur code PCS est 652A. Et enfin, nous avons des assistants avions, qui est le poste ouvrier le plus qualifié, qui occupe donc une place spécifique puisque ce sont des conducteurs, comme on dit, de push. Ce sont des tracteurs de remorquage qui permettent de repousser l'avion sur la piste et qui sont en principe censés aussi un peu participer à la manutention et qui sont considérés comme des conducteurs qualifiés d'engins de transport guidé. Donc code PCS 654A. Du point de vue de la composition sociale du groupe, alors pour reprendre apparemment un débat qui court cet après-midi, c'est un groupe essentiellement masculin, bien que apparemment, moi j'en ai pas croisé, mais il y a quelques femmes en France qui accomplissent ce métier, mais c'est par exemple plus courant dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. Donc sur mon terrain, ils sont essentiellement d'origine populaire. Aussi majoritairement, même si c'est une contradiction dans la phrase, mais pas dans la réalité, minoritaire ethniquement, c'est-à-dire issu des migrations postcoloniales, donc principalement du Maghreb, hein, pour près de la moitié, mais aussi beaucoup des Antilles et aussi d'Asie du Sud-Est et d'à peu près toute l'Europe. Et de même, ils résident pour la plupart en banlieue, dans les banlieues environnantes des aéroports, voire même, pour un certain nombre, notamment les plus jeunes, y ont grandi. Alors, c'est aussi, contrairement à certains métiers qu'on a évoqués, ils ont des âges divers. Pas nécessairement à tous les postes, mais on trouve des gens qui vont de 20 ans à presque la retraite et qui ont ce statut d'ouvrier. Donc, depuis la seconde moitié des années 90, le secteur aéroportuaire a été ouvert à la concurrence sous l'impulsion des politiques européennes. Ce processus s'accompagnait d'une évolution du modèle économique et productif qui a transformé le travail, l'emploi et les collectifs de travail au sein de l'assistance en piste notamment. Donc j'ai décidé d'aborder ces divers points à travers le prisme des logiques d'invisibilisation du groupe et du travail ouvrier. On verra dans un premier temps les changements économiques et productifs et ses effets sur les conditions d'emploi, ce qui produit une certaine invisibilité structurelle des ouvriers de piste. Puis on s'intéressera à l'organisation du travail avec l'accroissement des contraintes et l'invisibilisation des risques. Et enfin, dans une dernière partie, j'aborderai l'objet du collectif de travail, sa segmentation, le déclin des solidarités et les problématiques de l'identité à travers un jeu de visibilité et d'invisibilité. Donc, pour traiter des changements économiques et des conditions d'emploi, du point de vue de la division sociale du travail aéroportuaire, hein, pas seulement au sein de l'assistance en piste, mais de manière générale, le domaine de l'assistance en piste occupe une position subalterne, plutôt périphérique, et cette logique, entre guillemets, d'invisibilisation, a été nettement accentuée par la libéralisation. Donc, un premier point, on peut parler d'invisibilité physique. Et là, je me réfère notamment aux travaux, à la thèse de Louis-Marie Barnier sur Air France au moment de sa privatisation, si vous voulez, qui faisait des références à une étude d'Anne-Martin Frugier sur un château où, globalement, l'architecture contribue à complètement dissimuler les domestiques. Et entre guillemets, l'architecture de l'aérogare contribue, si vous voulez, à dissimuler en grande partie ces ouvriers de piste ou à limiter leur contact avec les passagers. En fait, le contact avec les passagers, c'est le rôle professionnel de certains métiers, hein, à savoir les agents de passage pour tout ce qui est enregistrement, accompagnement dans les terminaux et à bord de l'avion, de ce qu'on appelle les PNC, c'est-à-dire les personnels navigants commerciaux, les hôtesses, stewards, qui sont d'ailleurs des métiers beaucoup plus féminisés pour le coup et qui revêtent un bel uniforme, etc., qui sont censés véhiculer une image de marque aéroportuaire que l'on connaît tous. C'est aussi une invisibilité, et d'ailleurs ça me permet de faire le lien avec une certaine invisibilité symbolique, puisque ces personnels ouvriers sont en charge du sale boulot aéroportuaire et sont relativement absents des représentations du secteur. Donc, par exemple, quand je disais à des gens non spécialistes ou même à des sociologues, j'étudie l'aéroport, tout le monde était de, ah oui, des ouvriers à l'aéroport. Bon, au final, nous sommes sociologues du travail, donc ça nous étonne pas beaucoup. Mais bon, globalement, l'aéroport est tel qu'il est, on va dire, représenté à travers, bien sûr, la publicité, les médias, et aussi beaucoup, malheureusement encore, par les études scientifiques. C'est un domaine qui inspire plutôt le voyage, le luxe. On étudie davantage les pilotes, les hôtesses stewards, etc., que les petites mains. Néanmoins, ces ouvriers de piste sont parfois rendus visibles, si vous voulez, mais plutôt sous un prisme négatif, qui est celui des classes dangereuses, hein, de manière, pour faire le lien avec les dockers, notamment, puisque depuis à peu près une dizaine d'années, dans l'après 11 septembre, il y a plusieurs paniques morales qui ont eu lieu, notamment à partir du milieu des années 2000, autour des questions de délinquance, les vols dans les bagages, voilà, quand les gens disent « Ah, ceux qui volent dans les bagages !» et de présence éventuellement islamiste, liée à la forte présence de personnes d'origine maghrébine, immigrées ou non, lors des 10 dernières années. Ça avait commencé en 2006 avec le fameux ouvrage de Philippe de Villiers, « Les mosquées de Roissy ». Bon, je ne développe pas. L'ouverture à la concurrence des activités d'assistance au sol en 1996 a suscité un mouvement d'externalisation des activités d'assistance en piste et des activités d'assistance globalement, qui étaient autrefois exclusivement assurées par des compagnies aériennes, Alors, sur les aéroports d'Île-de-France, c'était principalement Air France, hein, et les gestionnaires d'aérodromes, en l'occurrence ADP, mais qui est désormais, maintenant, malgré le maintien de ce qu'on appelle de l'auto-assistance par Air France, mais pas sur tous les vols, il est principalement, ce secteur, pris en charge, assuré par des sociétés sous-traitantes, bon, qui sont un nombre limité. Bon, pour les citer, Alisia, ancienne filiale d'ADP, revendue en groupe privé il y a quelques années, WFS, Groupe Europe Handling, Swissport et Avia Partner, mais plutôt sur des aéroports de province. Donc, ce mouvement, moi j'ai décidé d'analyser ce mouvement d'externalisation en reprenant le modèle d'analyse de Jean-Pierre Durand, qui est celui de la centrifugation productive, qui décrit la projection à la périphérie des secteurs, des activités productives à moindre valeur ajoutée, en l'occurrence l'assistance en piste. Et généralement, cela s'accompagne d'une dégradation des conditions d'emploi, avec la remise en cause, dans le cadre de mon étude, du statut protégé des salariés qui était en vigueur dans les grandes organisations comme Air France et ADP. Donc on assiste depuis une vingtaine d'années à une logique de précarisation qui touche les cœurs du secteur aussi, c'est-à-dire les compagnies aériennes, les gestionnaires, mais bien davantage les périphéries. Donc dans le cadre de SuperRamp, d'après mes décomptes, plus de 50% des effectifs ouvriers, bien sûr, ont un contrat de travail précaire, qu'il s'agisse d'un contrat intérimaire, d'un CDD ou d'un contrat de professionnalisation, qui était le moyen privilégié d'embauche au moment où je me suis fait embaucher. De plus, on observe un turnover élevé parmi le groupe professionnel qui est causé par notamment la courte durée, enfin ou du moins il est accru, pas seulement par la précarité, mais par la courte durée des contrats d'assistance, donc de 6 mois à 2 ans, qui est un phénomène qui a été causé par la libéralisation. Et ces réattributions éventuelles, puisqu'il y a des appels d'offres au bout de 2 ans, etc., peuvent conduire à des transferts de personnel entre sociétés sous-traitantes qui peuvent, des fois, et c'est là le problème, s'accompagner donc de pertes des plus précaires et de pertes aussi d'avantages salariaux. Donc voilà à peu près le point sur les conditions d'emploi en lien avec les évolutions productives générales. Pour ce qui est de l'organisation du travail, qui constitue ma deuxième partie, depuis les années 1990, bon, globalement, il y a un accroissement du trafic aérien. J'ai envie de dire globalisation oblige aussi, et ça s'accompagne d'évolutions productives, avec notamment à partir des années 90, ou voire même un peu avant aux États-Unis, l'émergence du modèle hubs and spokes, donc rayons et moyeux. Globalement, c'est un modèle en étoile qui vise à rationaliser donc les trajets en faisant passer avant tout pour une compagnie s'établir sur un hub. Bon, alors à Paris maintenant c'est Charles de Gaulle, mais par exemple aux États-Unis ça peut être des endroits un peu surprenants comme Atlanta, qui est pas une des plus grandes villes des États-Unis, mais qui a une position stratégique géographique et qui permet donc de d'améliorer le but, hein, pour les compagnies aériennes, c'est augmenter le taux de remplissage des avions et donc rationaliser l'ensemble comme ça. Puis phénomène qui est peut-être plus connu aussi maintenant et pas forcément toujours lié aux hubs and spokes, c'est le développement des transporteurs low cost, Ryanair, EasyJet, etc. pour citer l'Europe. Et ce développement, cette organisation territoriale, elle s'accompagne concrètement sur le terrain d'une organisation en flux tendu à main-d'œuvre réduite, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Durand. Donc, du point de vue des contraintes productives, ça signifie une intensification du travail, Hein. Donc on a une réduction des temps d'escale, parce que ça va aussi avec le modèle Hubs and Spokes, et aussi le modèle low cost, pour rentabiliser. Une réduction aussi au sein des sociétés sous-traitantes d'assistance en piste des équipes, de même qu'un certain sous-effectif chronique qui est lié à un dimensionnement réduit. Et aussi, l'intensification, c'est le développement de la polyvalence que j'avais introduit tout à l'heure en je ne sais pas si vous avez remarqué, en disant qu'il y a un peu tous les postes ouvriers participent aux opérations de manutention, alors qu'avant, c'était le fait d'un métier séparé. Donc, intensification du travail et en même temps, invisibilisation, entre guillemets, du contrôle hiérarchique à travers la coordination par le flux entre les divers métiers d'assistance. Par exemple, en amont, les ouvriers de piste dépendent, par exemple, des assistants de l'assistance bagage, donc des gens qui vont leur ramener les bagages. Hein. En aval, c'est la compagnie. Ça, du moins, ça c'est pour le départ. Le flux tend à naturaliser les contraintes de travail. On observe aussi une logique d'individualisation du travail qui à nouveau reprend l'idée de la promotion de la polyvalence à travers la manutention, mais pas que, aussi des sociétés sous-traitantes et de la généralisation, enfin, ou d'un développement, si vous voulez, que j'ai pu observer au niveau de mon poste, d'une diffusion des qualifications qui ne s'accompagnent pas toujours d'une reconnaissance de ces qualifications. Par exemple, faire un départ au casque, ça dépend, c'est une compétence d'assistant avion, le poste le plus élevé, mais il y a beaucoup d'assistants pistes qui le font. Et c'est pas reconnu professionnellement. Et c'est principalement des ouvriers précaires chez qui ce n'est pas reconnu professionnellement et qui acceptent cette condition, si vous voulez, dans le sens où ils souhaitent une embauche stable. Donc on a beaucoup on a plusieurs logiques comme ça. D'un point de vue du groupe, la sous-traitance a fragmenté un groupe ouvrier qui opère autour de l'avion entre plusieurs entreprises. Maintenant, vous avez des sous-traitants en assistance piste, mais aussi spécialisés en assistance bagage, en catering, c'est-à-dire l'avitaillement de repas, boissons, ravitaillement carburant, nettoyage, voire dégivrage, peuvent être pris en charge par des entreprises différentes sur le même vol. Donc c'est le résultat de l'éclatement de ce que Louis-Marie Barnier appelait la compagnie intégrée de type Air France et qui renforce une invisibilisation du collectif ouvrier de l'assistance aéroportuaire qui a toujours été divisé en groupes professionnels mais qui à l'origine pouvait être uni par un employeur et le partage d'un statut, et ce qui n'est plus le cas. Également, comme on peut l'observer dans le cadre de l'industrie nucléaire, pour reprendre les analyses d'Annie Thébault-Moni, la sous-traitance opère une délégation des responsabilités en matière de sécurité vers les travailleurs sous-traitants. Or, les pénibilités et les risques d'accident, et les risques de santé aussi, sont accrus par l'intensification du travail en piste, qui est généré par le flux tendu. Et globalement, cette division entre divers sous-traitants contribue à invisibiliser ces risques, d'autant plus que les personnels sont précaires. Donc maintenant, je vais passer à ma troisième partie, donc plus centrée sur le collectif de travail. Donc, pour reprendre le prisme de Durand, donc qui parle de centrifugation et qui au niveau de manière un peu qui utilise ce concept de manière un peu équivalente, l'idée de généralisation du modèle cœur-périphérie, on peut l'observer au sein des sociétés d'assistance Et notamment, cette logique segmente le groupe des ouvriers de piste dans ces entreprises sous-traitantes selon le modèle de la firme flexible d'Atkinson. Donc concrètement, ce modèle, c'est un noyau d'ouvriers qualifiés en contrat stable, qui sont sur mon terrain les assistants avions, organisés syndicalement, puis un premier cercle périphérique d'ouvriers moins qualifiés, les assistants pistes, qui sont soit en CDI, mais dans ce cas-là, dans une carrière un petit peu stagnante, soit en contrat temporaire, donc CDD ou contrat de professionnalisation, et qui souhaitent une insertion stable, qui se fera, si vous voulez, avec aussi l'obtention de la qualification qui mène au poste d'assistant avion. Donc il y a un peu une impression aussi que le poste d'assistant piste peut être menacé de disparition. Après, c'est pas une logique qui s'est pleinement développée non plus. Puis vous avez un deuxième cercle périphérique d'ouvriers non qualifiés, manutentionnaires, les agents de chargement, qui sont exclusivement en intérim. Vous avez aussi des personnels chez les assistants avions et les assistants pistes qui sont en intérim, mais sont beaucoup plus rares. Alors que chez les agents de chargement, tout le monde est intérimaire. C'est aussi le poste le plus dur physiquement, puisqu'ils ne font que de la manutention. Donc ça fait écho avec ce que je dis sur ce que je viens de dire sur l'invisibilisation des risques. Donc la fragmentation du groupe par des conditions inégales d'emploi conduit à l'invisibilisation relative des travailleurs périphériques au sein du collectif, en dépit de la taille du groupe, puisqu'il représente à peu près la moitié des effectifs. Donc les précaires font l'objet d'un turnover plus important, voire, et disposent généralement d'une moins grande ancienneté dans l'entreprise, bien qu'on puisse observer la présence de d'intérimaires qui ont une certaine ancienneté, comme les permatemps dont parle Sébastien Chauvin chez les journaliers de Chicago. Les membres du noyau stable de l'entreprise dominent la vie syndicale, bon, en termes de représentation et de participation, dont sont partiellement exclus les précaires, donc soit de droits pour les intérimaires ou pour les personnes en contrat temporaire qui ne seraient pas là lors des élections, etc. Soit de fait, comme j'ai pu un petit peu l'observer, dans le sens où, en tant que précaire, vous n'êtes pas convié à discuter lors, par exemple, des intenses discussions qu'il y a à l'occasion du comité d'entreprise, etc., par les salariés stables. La mise en concurrence des salariés pour l'accès et le maintien dans le noyau stable suscite, et ça, par exemple, ce que je viens de dire en est une illustration, des tensions entre les différents segments, les stables et qualifiés organisent des commérages sur les erreurs des précaires pour les disqualifier, principalement sur les intérimaires. Les intérimaires, principalement, ou les contrats les contrats pro, comme on les appelait, sont généralement entre eux, comme j'en ai fait partie, sont très critiques vis-à-vis des ouvriers stables, parce qu'ils considèrent qu'ils leur délèguent tout le sale boulot. Et pas mal de genres de tensions comme ça. Face à la précarisation, donc qu'il s'agisse de la problématique des contrats de travail et des transferts de salariés, les solidarités ouvrières sont affaiblies, comme par exemple peut l'illustrer une relative division de la représentation syndicale. J'ai pu noter qu'il y avait 34 sections quand j'étais là en 2011. Puis, suite à un transfert, il y avait deux sections de plus, donc six sections pour
pour 200 salariés, mais même pas 180 ou quelque chose comme ça. Ça organisait. Il y avait un collègue qui parlait du village gaulois où les gens se tapent dessus. Donc ça favorise, j'ai pu analyser cela comme un des facteurs qui favorisait le développement de relations paternalistes dans une recherche de, dans une logique de recherche de protection et d'accès aux ressources. Les ressources étant les heures supplémentaires, hein, qui, comme dans la logistique, sont des choses très importantes, ce qu'on appelle les renforts, notamment les jours supplémentaires où on travaille, et l'accès aussi aux formations qualifiantes qui permettent, notamment la formation à la conduite, de, les deux principales étant la formation au casque et la formation au push, la conduite du push, qui permettent donc justement une promotion. Et donc ces relations paternalistes, j'ai repris le concept de Nicolas Jounin de la loyauté, c'est-à-dire, bon, pour faire court, je vais pas tout vous lire, mais d'obligation, de relations entre sur le terrain, c'est globalement des relations entre les ouvriers et ce qu'on appelle les superviseurs, c'est-à-dire des contremaîtres, qu'il s'agisse de la personne qui gère les affectations sur les vols, le régulateur ou d'autres superviseurs qui sont plutôt mobiles. Et voire des, au-dessus du superviseur, vous avez le responsable d'exploitation. Et donc d'obligations interindividuelles, informelles, plus ou moins solides, où se mêlent à la fois la coopération des acteurs et la domination de l'un d'entre eux. Donc de loyauté entre ouvriers et personnel d'encadrement. Ces formes de solidarité prennent fréquemment, mais pas exclusivement, une dimension ethnique et constituent un axe transversal de segmentation du groupe des ouvriers de piste. Elles se caractérisent par leur dimension relativement invisible, puisqu'elles sont informelles, instables, elles sont souvent déniées, et paradoxalement visibles, puisqu'elles sont très présentes dans les représentations du membre du collectif, notamment à travers des soupçons de favoritisme et de discrimination. Je vous ai mis un petit extrait de Journal de terrain. Donc, à notre rentrée en base, j'assiste à une discussion entre Jimmy, assistant piste intérimaire d'origine guyanaise, un assistant piste d'origine antillaise contrat pro et un assistant piste intérimaire d'origine africaine. Ce dernier s'exprime en anglais, déclarant que le travail ici est comme en Afrique, suggérant communautaire. Il demande s'il faut être arabe pour obtenir un CDI, ce qui fait rire les deux autres qui semblent acquiescer. Donc, par exemple, ça illustre des tensions entre le groupe, entre guillemets, des Antillais et celui des Maghrébins, qui se nouent généralement sur cette logique-là et qui illustrent un processus d'ethnicisation, enfin une tendance à l'ethnicisation des relations de travail, pour reprendre l'expression de Véronique de Ruder, qui obscurcit en partie le fondement professionnel de la hiérarchisation du groupe par les qualifications, le statut, le contrat de travail, l'ancienneté, etc. Néanmoins, je n'ai pas pu observer de division ethnique du travail au sein des entreprises sous-traitantes, contrairement à ce que Jounin a pu observer dans le cadre des BTP. Donc, en guise de conclusion, les réformes économiques, à savoir la libéralisation, l'ouverture à la concurrence et les évolutions productives, particulièrement la sous-traitance, ont relégué l'assistance en piste et ses ouvriers dans une position encore plus périphérique du secteur aérien, conduisant à une certaine invisibilisation des ouvriers de piste. Ce groupe se trouve dans ce contexte confronté à la précarisation, à la fragmentation et à l'accroissement des contraintes et des risques liés au travail, avec un potentiel de résistance affaibli. Il s'avère néanmoins capable, le groupe, de mobilisation lorsque le collectif de travail est menacé dans son ensemble, comme l'illustre la grève des ouvriers de Servicair à Orly en octobre 2009, afin de sauver leurs avantages salariaux à l'occasion de la reprise de la société. Il y avait une incertitude entre le transfert des ouvriers entre deux sociétés et une rumeur, si vous voulez, d'une liste qui aurait favorisé certains syndicalisés au détriment d'autres personnels et qui a contribué, si vous voulez, à, au bout d'un moment, à une mobilisation globale du groupe, notamment quand ils ont appris, quand tout le monde a appris que c'était faux et qu'il n'y avait aucune certitude pour personne. Donc il est difficile de voir des mouvements émerger, à part quand, si vous voulez, la position de tout le monde est menacée, hein, de manière concrète. Voilà, je vous remercie.
Donc on va prendre peut-être une ou deux petites questions pour Fabien, le temps que Paul s'installe. Donc...
Merci Fabien pour cette exposé qui nous permet de voir différemment désormais les choses quand on prend l'avion, donc c'est toujours très très utile de pouvoir resituer les éléments. Moi j'ai une question d'information et puis une remarque de fond. La question d'information, la société, l'employeur que tu as évoqué, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a plusieurs sociétés par plateforme aéroportuaire? Est-ce que ces sociétés qui donc emploient ces personnels de manutention sont liées aux compagnies? Comment ça marche sur une plateforme, quelle qu'elle soit? Sur le fond, sur ce qui fait un peu la problématique de l'invisibilité, est-ce que finalement... l'invisibilité, au-delà du groupe des deux, trois catégories que tu as évoquées, étudiées, est-ce que c'est pas une caractéristique générale, finalement, des emplois d'exécution, qu'ils soient ouvriers ou employés? Parce que, d'une certaine façon, les personnels de service qui font le ménage dans les tours de bureau à 5 heures du matin, non seulement le consommateur final ne les voit pas, mais même les salariés de la tour en question ne les voient pas beaucoup. Donc, est-ce que c'est pas une caractéristique générale de ce type d'emploi? Et, même si ça peut paraître contradictoire, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs types d'invisibilité? Parce que dans une société aérienne, il y a aussi d'autres catégories d'emplois qu'on ne voit pas du tout. Les contrôleurs de gestion, qu'ils soient internes ou externes, on ne les voit pas. Et là, c'est une invisibilité qui a un autre sens, évidemment. Et pour finir là-dessus, finalement, tu as évoqué les pilotes et les hôtesses et les stewards, ceux qu'on voit le plus... C'est pas le pilote qui, de temps en temps, honore les passagers au moment de la sortie de sa présence, mais qui, d'une façon générale, qu'on voit pas, sont les hôtesses et les stewards, mais c'est assez conforme à la définition que l'INSEE donne des professions intermédiaires, puisque je pense qu'ils sont professions intermédiaires, sinon tu nous diras le contraire, à savoir des catégories intermédiaires, non seulement dans la hiérarchie sociale, mais des catégories intermédiaires aussi, en termes de relationnel, en termes de relations avec le public. Donc je pense que ce concept d'invisibilité peut permettre, au-delà des groupes que tu as étudiés, de jeter un regard à condition de le différencier sur l'ensemble de la structure sociale.
Donc, ajouter une question sur l'invisibilité.
Allez-y.
Oui. C'est, alors, je ne sais pas si c'est Roissy, mais admettons que ce soit Roissy. L'invisibilité est encore accrue, je crois, par la construction même du site, qui fait que les acteurs sur le site de Roissy ont eux-mêmes une très grande difficulté à avoir une vision globale d'un espace qui est très morcelé physiquement, mais ensuite aussi pour des raisons de sécurité. Donc c'est, voilà, je crois que je me demande si ça n'en rajoute pas encore à cette invisibilité-là.
Donc, alors, je vais déjà répondre à la première question qui était globalement comment on se divise, comment l'espace, les compagnies sont divisées. Bon, bah, y a des appels d'offres. Concrètement, pour chaque compagnie, hein, voire groupe de compagnies, parce que par exemple, vous gagnez Iberia, vous gagnez Vueling. Hein. Au final, ça se réduit. C'est pas non plus un grand marché. Il y a pas. C'est marrant. On ouvre à la concurrence et au final, il y a quoi? Deux fois plus de compagnies, mais concrètement, on abaisse toutes les conditions de travail, toutes les conditions d'emploi par rapport à l'étape précédente. Hein, on abaisse les coûts, etc. Hein, concrètement, c'est ça qui s'est passé. Comment ça se passe? Ben, alors, c'est pas. Moi, je connais le principe, si vous voulez. J'ai pas pu non plus observer ce genre de choses. C'est lié à ma position sur le terrain. Mais globalement, les sous-traitants ont des, si vous voulez, des grappes de compagnie comme ça. Et ça peut échanger. Alors ça s'échange pas si souvent que ça, mais ça arrive quand même. Il y a un renouvellement. Par exemple, j'aurais fait l'enquête 10 ans plus tôt. Service Air, La grève de 2009, c'est aussi la fin de Service Air, qui est une entreprise qui apparaît à la fin des années 90, qui avait déjà repris... Il y a une circulation des propriétaires, c'est ça qui est intéressant, hein, des entreprises qui possèdent, qui sont pas toutes forcément... qui possèdent les sociétés sous-traitantes, hein, et qui sont, y a un, et qui sont pas des compagnies aériennes, généralement, hein. ADP ou des compagnies qui étaient dans l'aéroportuaire. ADP a cédé Alizia à un groupe 3GS qui s'est développé en faisant de la récupération de chariots et du nettoyage, enfin qui a développé son activité dans l'aéroport par une activité qui avait l'air encore plus annexe, hein, récupérer, entretien de chariots, du nettoyage, etc. et qui se développe et il y a une rotation. Après, c'est quelque chose que j'ai vu en faisant ma partie théorique, marché, etc. C'est pas quelque chose que j'ai très bien étudié non plus. Mais bon, ça peut toujours se faire. Pour ce qui est de l'invisibilité. Alors, c'est pas non plus la problématique de ma thèse, mais j'ai trouvé ça intéressant de l'apprendre aujourd'hui quand on se pose ces questions de travail hors des usines, travail. Et bien sûr qu'elle est liée. Alors. On voit avec le cas des domestiques que d'une certaine manière, un domestique n'est pas fait pour être là au milieu tout le temps. Et en même temps, parce que c'est un domestique, on va encore plus le cacher. Il y a un peu cette logique-là avec les ouvriers de piste, les bagagistes. Il faut se rappeler que, par exemple, et c'est Barnier qui en parle, à l'époque de Roissy, hein, de Orly, je veux dire, dans les années 60, où l'aviation, c'est le luxe. C'est pour une clientèle fortunée, entre guillemets, ou d'affaires. On n'attend pas son avion à l'aérogare d'Orly. On va aux Invalides et on se fait amener par quelqu'un qui prend les bagages dès ce moment-là. Et d'ailleurs, il y a un petit lien avec la domesticité, alors qu'avec la différenciation du travail accru, etc., la rationalisation, le développement du secteur, de plus en plus, ces personnes qui manipulent les bagages vont être de plusieurs métiers, et on va avoir un statut quand même un peu plus dévalorisé. Mais ça, c'est lié à la démocratisation aussi, entre guillemets. Ouais, ok. Je me rappelle plus exactement la remarque sur... Oui, il y a un lien avec l'architecture quand même, mais c'était pour accentuer le côté symbolique, hein, entre guillemets. Et aussi le fait que il y a un contact complexe avec les passagers parce que c'est pas valorisant. Et c'est généralement aussi une forme d'évitement qui est d'évitement maintenu. Une fois, donc, et je conclue là-dessus sur la réponse... Une fois, j'étais pressé et je devais monter en soute sur un petit avion. Et apparemment, les hôtesses faisaient descendre les clients et on est quand même pressé par le temps. Et j'ai eu le malheur de monter dans la soute. Et dans un petit avion, les choses communiquent, hein. Dans un grand avion, j'aurais pu faire ce que je voulais dans la soute. On me voit pas, on s'en fout. Mais là, je suis monté, dans la petite soute. Et j'ai eu droit à un scandale. Parce que des clients avaient pu me voir. Et il y a vraiment une indignité, quoi. J'ai l'impression que j'avais volé un truc. Puis la dame qui m'a accusé de faire ça n'a pas daigné me le dire. Elle voulait pas, quoi. Et c'est, je crois, une des premières fois de ma vie où j'étais autant traité comme un brigand, comme un malpropre. Et j'ai senti ce truc-là. Et ça n'étonnait personne, hein.
Vite alors. Non, j'aurais juste voulu savoir un petit peu d'où viennent ces ouvriers aéroportuaires, un peu où ils se situent dans le groupe des classes populaires. Et en fait, je pose la question parce que dans les entrepôts, on voit parfois des ouvriers qui passent de l'un à l'autre, qui passent par l'aéroportuaire, notamment parce qu'autour de Roissy, il y a des très grandes zones logistiques. Et en général, c'est plutôt perçu. Alors, je sais pas du tout si c'est significatif ou pas. Et les ouvriers qui passent de l'un à l'autre, l'aéroport est plutôt perçu comme une ascension professionnelle, quelque chose de plus valorisant. Du coup, je sais pas si même dans un lieu où ils sont vraiment les petites mains, est-ce qu'il n'y a pas une forme de valorisation au départ qui est peut-être déçue ensuite? Bon, voilà.
Alors, il y a une valorisation. J'ai déjà entendu. L'aéroport, ça paie mieux que l'usine et c'est moins, entre guillemets, c'est moins pénible. l'origine, etc., sociale, c'est un truc, c'est un aspect que j'ai pas pu très très bien étudier non plus, puisque j'ai pas pu faire beaucoup d'entretiens, etc., qu'il y a pas les données aussi, la sous-traitance facilite pas ça. Néanmoins, on va dire que les ouvriers du noyau, c'est l'aristocratie ouvrière. Et qui se sent comme tel, un bon mois, et encore avant, c'était beaucoup mieux, avant la libéralisation, ou au début, c'était beaucoup mieux, selon eux, en termes de revenus. Mais bon, maintenant, ils habitent en pavillon, ils sont pas obsédés par les avions, ils sont obsédés par les voitures. Hein. Ce que m'avait dit un ami maintenant, Mustapha Bellossi, qui a d'ailleurs publié un ouvrage sur ses expériences précaires, il me disait qu'ils étaient passionnés par la voiture et c'est effectif. Hein. Ils investissent dans ce genre de choses. Comme on a pu, comme ça, j'ai pu, quand j'ai lu votre article sur les dockers, ce genre de remarques. Donc, quand on accède au niveau qualifié stable, on est quand même dans l'aristocratie ouvrière, alors que franchement, le statut de manutentionnaire est vraiment dévalorisé. J'ai du mal à savoir, et je pense qu'il y a plus de gens, par exemple, qui sont des migrants récents dans ce statut-là, ou des choses comme ça.